Bonjour à tous et bienvenue dans CMO Sommet, l'émission qui fait parler les community managers. Aujourd'hui, je suis avec Henri Prouveau, qui est community manager, freelance et nomade digital de surcroît. Donc, j'ai voulu savoir comment faisaient pour travailler les community managers qui étaient également nomades digital, c'est-à-dire qu'ils travaillent depuis un bureau dans un pays à l'étranger ou toujours en vadrouille en tout cas. Les méthodes de travail changent complètement et dans cet épisode, on va voir comment fait un community manager pour s'adapter à ce mode de vie et en même temps trouver des clients régulièrement pour vivre de son activité. Donc je vous souhaite une très bonne écoute et à tout de suite. Salut Henri, comment ça va?
Bah ça va bien toi?
Ouais, ça va bien, écoute, là à Mulhouse, tu vois, il fait pas hyper beau en ce moment. Toi, j'espère qu'il fait plus beau chez toi, t'es où là?
Bah alors là, je suis à Dubrovnik, il y a 10 minutes, j'aurais pu être réconfortant et te dire, bah, il pleut, mais là, maintenant, dès que le podcast a commencé, c'est peut-être un signe, il fait beau.
Zut, non, je déconne. Et oui, parce que, alors c'est dans quel pays, ça, d'ailleurs?
C'est en Croatie.
Croatie, ouais, cool, et lundi, en plus, tu changes de pays, c'est ça?
Exactement, je pars en Italie, à Palerme.
Ah, mais toi, t'es un grand voyageur, toi.
Bah, c'est le but de ma vie digital nomade. On en reparlera probablement après, je pense.
Ouais, carrément, mais digital, ouais, t'es community manager et digital nomade, ça c'est hyper cool, tu vois. Je suis content de t'accueillir dans le podcast parce que c'est la première fois que je fais une interview avec un CM free et digital nomade. Et je trouve ça trop cool parce que ça fait rêver plein de gens.
Bah, ça fait un an, même deux ans qu'on prépare ça avec ma copine de partir, de pouvoir voyager, travailler d'où on veut. Ouais. Et en fait, vu qu'en plus, quand on est freelance, bah, on n'a pas beaucoup de vacances, et bah, du coup, on est en vacances quand on travaille.
Bah ouais, c'est vraiment top. Mais du coup, quand tu dis, tu peux être plus précis, tu vois, sur ta préparation, tu dis que ça fait un an que tu prépares ça. Comment t'en es arrivé à faire ça, en fait?
Alors, en fait, à la base, c'est surtout un rêve et une envie d'Agnès, du coup, qui est ma copine. Moi, je suis quelqu'un. Alors, moi, je suis pas une personne qui a vraiment des rêves que je veux accomplir, mais j'aime bien prendre l'opportunité quand elle arrive. Et en fait, moi, voyager, ça a toujours été quelque chose qui m'a intéressé. Et je me souviens qu'avant de choisir de prendre mon premier CDI, de signer mon premier CDI, j'avais hésité à faire plutôt une année sabbatique. Bon, j'avais pris à ce moment-là l'opportunité du CDI, mais là, du coup, j'en ai profité pour prendre l'opportunité du voyage. Et du coup, comment ça s'est passé? On est déjà parti mutuellement notre travail. On était dans la même agence. Et en fait, on a fait un an. On s'est lancé pendant un an en freelance, où ça nous a permis de stabiliser financièrement, trouver une base client solide. Donc ça, on l'a fait en France. Et depuis, fin juin de cette année, là, on est parti à l'aventure.
Ok, c'est super chouette. C'est-à-dire que vous bossiez tous les deux dans une agence. Toi, t'étais CM en agence, c'est ça?
C'est ça. J'étais social media manager. Exactement. Moi, j'étais social media manager. Et du coup, Agnès, c'était traffic manager.
Ok.
Deux métiers qui se complètent bien.
Ouais, carrément. Parce que le traffic manager, c'est celui qui fait du... Tu fais de l'acquisition payante, hein, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Ok.
Et du SEO aussi, d'ailleurs.
Et du SEO, ok.
Payante et pas payante, au final. C'est vraiment tout ce qui amène le trafic.
D'accord. Ouais, c'est vrai, je connais un peu moins ça, ce boulot-là. Ok. Et du coup, tu voilà, donc t'as eu l'opportunité de te lancer en free. L'année où tu t'es lancé en freelance. Comment ça s'est passé? Est-ce que t'as toujours été salarié et tu te lances en freelance? Comment s'est passé le bon, en fait? Enfin, le bon, c'est pas un bon, mais si. Enfin.
Alors, en fait, à la base, on devait partir, nous deux, en janvier 2021. Sauf que tu connais tout le contexte Covid. Il y a eu pas mal de bousculements dans les agences et dans les entreprises. Et du coup, il y a eu un licenciement économique dans la boîte où j'étais. Et mon patron, qui savait que je comptais partir en janvier, m'a proposé de partir du coup en juin 2021, 2020 pardon.
D'accord.
Du coup pareil, c'est une opportunité que j'ai prise parce qu'en fait moi c'était tout bénef parce que je partais plus tôt, mais je partais avec une sécurité financière hein, parce qu'en fait avec le licenciement économique t'as 80-90% de ton salaire pendant un an
OK.
avec le chômage. Donc déjà quand tu pars avec entre 1 500 et 2 000 pour pas donner mon salaire d'avant,
Ah, t'as de la
mais
pression en plus.
entre 1 500 et 2 000 par mois, ça te permet de pouvoir travailler sur ton freelance sans trop stresser.
Ouais, c'est hyper confortable, c'est clair.
C'est surtout cette opportunité qui a fait que j'ai fait ce bond là de partir en freelance.
Ouais.
Mais c'était quelque chose qui était prévu depuis début d'année 2020.
Ouais, c'est clair. Après, tu vois, même si tu as un matelas de sécurité, il n'est pas éternel. Et c'est vrai qu'en freelance, du coup, quand est-ce que tu as commencé à trouver tes premiers clients? Comment ça s'est passé? Comment tu t'es dit, OK, est-ce que je vais récupérer ce que je faisais, enfin, me resservir de ce que je faisais en agence, m'inspirer de ça et trouver des clients? Comment ça s'est passé?
Alors, du coup, moi déjà, je suis parti déjà avec un client parce qu'en fait, j'ai continué. Mon ancienne agence est devenue un client. J'ai continué
D'accord.
à travailler avec une banque avec qui je travaillais déjà depuis 2 ans. Donc, re-sécurité financière déjà.
Ouais, pareil.
Et ensuite, ouais, sur tout ce qui est méthodologie, j'ai beaucoup repris des méthodes que j'ai apprises pendant l'agence parce que c'est comme ça que j'ai commencé à travailler et que j'ai appris à travailler, donc forcément il y a des choses que tu reprends quand tu arrives en freelance et qui te permet déjà d'arriver pas dans l'inconnu complète dans ta méthodologie de travail. Après, le but c'est de d'optimiser et de retravailler pour que ce soit compatible avec le fric.
Ouais, totalement. Et, du coup, c'est quoi la différence quand t'es CM? Tu vois, moi, j'ai jamais été CM en agence. Je connais pas trop ce boulot, mais c'est quoi la différence vraiment quand t'es CM en agence? Qu'est-ce qui fait que t'as des méthodos hyper carrés et tout? Enfin, comment ça se passe en fait le boulot en agence quand t'es CM?
En fait, généralement, dans une agence, en tout cas, qui vraiment propose des services de social media, tu as généralement un ou deux ou voire trois social media managers et plusieurs CM. En fait, ça fait une équipe, tu as une hiérarchie verticale. En fait, tu as les social media managers qui vont travailler tout ce qui est côté stratégie et les CM qui vont faire la stratégie. Et en fait, moi, du coup, j'étais un peu entre les deux, un peu entre CM et Social Media Manager dans mon agence. Et du coup, je faisais tout, j'ai touché à tout, j'ai touché autant à la stratégie, à la relation client, que à faire le travail de CM qu'on connaît, c'est-à-dire poster, animer une communauté, modérer, etc. Donc du coup, ça marche comme ça globalement, le métier d'agence, le métier de social media manager et de CM en agence.
D'accord. Ok, donc ça c'est une excellente base en fait quand tu te lances en freelance finalement, parce que t'as vraiment en fait l'agence c'est peut-être le passer par l'agence c'est peut-être le moyen peut-être le plus simple de se lancer en freelance après au niveau de la méthodologie, quoi.
Ouais, puis en plus, c'est vrai que quand t'es en agence, généralement, t'as pas que des social managers et des SM. T'as des commerciaux, t'as des traffic managers, tu peux avoir des graphistes. En fait, du coup, ça t'ouvre à plein de métiers différents qui vont te donner une vision différente, une vision de travailler aussi différente et en fait, ça va t'enrichir énormément. En fait, l'agence, je trouve que c'est une superbe porte d'entrée dans une carrière professionnelle. C'est pas là où tu gagnes le plus d'argent. Si certains sont intéressés, enfin si certains nous écoutent étudiants, je vous dis c'est pas là où j'ai gagné le plus d'argent. Par contre, pour s'enrichir en début de carrière, c'est super quoi.
Ouais, bah ça, mais du coup, toi, t'es rentré direct en agence après tes études, c'est ça?
C'est ça. J'ai fait ouais, études, agence et maintenant freelance.
D'accord. Ok, ouais, bah ça, c'est super cool. Mais ça, c'est vrai que c'est moi, ça m'a toujours. Je me suis toujours demandé comment ils bossaient vraiment en agence parce que, enfin, je connais pas du tout ce monde-là. Moi, je viens de l'annonceur directement. et encore du semi-public-privé, quoi. Donc rien à voir.
En fait, c'était quand t'es en agence, enfin une bonne agence a forcément des process très carrés, très cadrés, parce que tu vends du temps humain à des annonceurs justement. Donc vendre du temps humain, tu peux vite être débordé. Et c'est un peu, en fait, c'est à peu près comme en freelance, sauf que nous on vend notre temps. En agence, tu vends le temps de plein de gens. Mais tu vois, tu peux vite être débordé en freelance, par exemple. En freelance, si tu gères mal, tu peux vite être débordé et derrière, t'as tous tes clients qui ça va pas bien se passer. Bah, l'agence, c'est pareil, sauf que là, c'est une multiplication de temps humain à gérer, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'en freelance, comme tu dis, nous, ce qu'on doit faire, c'est l'homme orchestre. En fait, c'est un, la relation, enfin, trouver des clients, deux, la relation client, trois, la prestation. Donc, ça peut comprendre stratégie ou opérationnelle ou les deux. Et quatre, tout l'aspect administratif, compta, gestion de la boîte, tout ça. Donc, c'est vrai que.
En fait, freelance. Quand t'es freelance, tu fais tout ce que t'as vu en agence, tu prends les métiers de tout le monde. Et tu le fais tout seul.
Ouais, c'est
un peu ça.
Ouais, non, mais c'est clair. Et en plus, toi, t'as choisi la facilité en partant en nomade digital. Non, je déconne, mais c'est pas la facilité, justement, ça rajoute une complexité supplémentaire. Parce que déjà, community manager, je trouve que ce métier, il est très nébuleux, très changeant. Ça évolue très vite, il y a tout qui évolue très vite, voilà. Freelance, en plus, tu te rajoutes une complexité parce que tu fais tous les boulots de l'agence, et puis en plus, en nomade digital, là, t'es obligé d'être très très bon au niveau de l'acquisition client aussi, à distance, quoi. Donc,
Ouais, bon, en fait, c'est vrai que quand t'es CM et digital nomade, t'as certains aspects des métiers déjà que tu peux plus faire. Par exemple, c'est simple, mais créer du contenu sur place, par exemple, pour un client, bah, ça t'oublie. Donc forcément, c'est faut que tu réfléchisses aussi à ce que tu vas proposer et ce que tu es capable de gérer pour un client.
Quand tu es community manager, tu vois, comme c'est un métier où il n'y a pas de règles, moi, de mon point de vue, c'est ça. Il y en a qui aiment bien faire du contenu, il y en a qui aiment pas trop faire du contenu, il y en a qui aiment bien modérer, parler avec les gens, il y en a qui aiment pas ça. Toi, t'es quel type de community manager, en fait?
Moi, ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est tout le côté stratégie. C'est vraiment de proposer une stratégie claire, cadrée, pour mes clients. J'ai encore des missions avec certains clients, donc notamment mon client principal, où je fais la publication, je fais les concepts, etc. Mais j'avoue que de plus en plus, j'essaie de me tourner davantage vers la stratégie et le conseil parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Mais on avait déjà parlé ensemble la dernière fois quand on s'est parlé. Mais en fait, attends, je me suis perdu.
quel aspect tu vois, il y a différents types du. En fait, c'est ça. En fait, ça, tu t'es perdu parce que ma question, elle est compliquée parce que en vrai, c'est hyper large, quoi. En fait, CM, ça veut tout et rien dire à la fois. Tu peux tout faire ou rien faire ou tu fais beaucoup de choses toujours, mais tu peux. T'as plusieurs spécialités. C'est des spécialités qui peuvent être relatives au secteur, au domaine, ou ça peut être des spécialités plus techniques. Ou au niveau opérationnel et stratégique, toi, c'est où tu te situes? Donc, c'est plus dans la stratégie.
En fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, avant que je me perde, c'est qu'en fait, du coup, moi, j'ai commencé en tant que CM en agence et j'ai commencé à créer du contenu, à publier, à modérer, à échanger avec des trolls sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et en fait, je me rends compte, et c'est le cas plein de personnes dans notre métier quand on échange avec eux, c'est qu'en fait, plus tu avances en termes d'expérience, plus tu t'éloignes de ça, j'ai l'impression. Parce que l'opérationnel pur, qui a vraiment modéré, etc., ça devient de moins en moins quelque chose qui va t'intéresser au fil du temps. Et donc moi, en fait, je suis actuellement dans cette optique-là où justement j'essaie de pas trop animer, de pas trop modérer, mais vraiment d'avoir une vision un peu plus large, un peu plus avec un peu plus de recul, et donc notamment en réfléchissant vraiment en termes de stratégie pour les clients.
Ouais, ben en même temps, le fait que tu sois nomade à distance, et ben ça encourage aussi ça, quoi.
Oui, c'est sûr.
Parce que à moins que tu coordonnes vraiment avec des vidéastes sur place ou j'en sais rien ou et que tout se fasse à distance, c'est compliqué de créer du contenu quand tu rencontres pas ton client au moins régulièrement une fois par mois, voilà. Donc, c'est sûr que c'est un peu complexe cet aspect-là. Ouais, il y a plein de choses intéressantes parce que toi, tu es là-dedans plutôt. Alors, quand tu parles de stratégie, enfin, quand tu es CM, par quoi tu commences en fait pour un client, tu vois?
Comment avant de travailler avec un client, tu parles?
Non, 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 au niveau de la prestation, tu vois, on parlera tout à l'heure de comment trouver ses clients. C'est un truc
Ouais.
hyper important. Mais tu vois, dans ta prestation à toi, en termes stratégiques, comment tu fais une stratégie en fait quand t'es social media manager ou quoi? Enfin, par quoi tu commences? Enfin, comment ça se passe par exemple en agence? C'est quoi la différence avec toi ce que tu fais ou...
Alors, il n'y a pas vraiment de différence avec l'agence, c'est juste que enfin, tu es le seul interlocuteur, tu n'as pas quelqu'un, tu vas pas avoir le téléphone arabe ou tu as le commercial qui va dire ça au CSM et les managers, qui va dire ça au CM. Donc là, au moins, tu es le seul avec qui enfin, le client est en discussion. Donc ça, déjà, ça permet d'enlever certains flous que tu peux avoir parfois en agence. Mais du coup, comment on se travaille? En fait, généralement, moi, avant même de signer avec un client, je vais passer par plusieurs étapes. Donc, il y a l'appel de découverte pour déjà savoir si ça peut être potentiellement un client avec qui ça va être intéressant de travailler. Je parle même en termes de relations humaines. Et en fait, quand on passe cette étape, moi, je vais faire 30 minutes, 1 heure d'appel où je vais lui poser plein de questions. Mais vraiment des questions qui vont de pourquoi tu veux aller sur les réseaux sociaux, à des clients des questions plus précises comme est-ce que c'est un blocage par exemple de mettre en avant des employés dans ta communication. En fait, c'est vraiment, je liste tous les blocages potentiels, toutes les raisons, les objectifs du client. À la suite de ça, moi je vais généralement je propose enfin c'est pas une stratégie mais en fait c'est une présentation de pistes, de grandes pistes stratégiques sans aller vraiment très loin pour garder un peu de suspense quand même, pour pas lui donner tout avant qu'il paye. Mais c'est des grandes pistes stratégiques pour que lui, derrière, il puisse savoir où on va ensemble. Et puis, tu as les grandes pistes stratégiques, tu as le budget. Et ensuite, quand il est intéressé, quand le devis est signé, là, avec les grandes pistes stratégiques qui ont été prévalidées et avec toutes les questions auxquelles il a déjà répondu en amont, là, je vais réfléchir à une stratégie avec lui. Là, d'ailleurs, dans la stratégie, il y a deux manières de faire que je propose à mes clients. C'est la stratégie collaborative où, en fait, au lieu de faire dans mon coin, on va faire un atelier ensemble où je vais une nouvelle fois, lui reposer des questions et voir. Lui proposer des choses et lui, il va me dire si ça correspond à sa vision, etc. Donc ça permet d'avoir une stratégie très collaborative. Ça demande encore un peu de temps au client, mais derrière, tu as vraiment une stratégie très riche avec à la fois la connaissance du client et à la fois ta connaissance à toi en tant qu'expert. Et l'autre solution, c'est de faire de mon côté, c'est-à-dire que je vais travailler de mon côté, je vais créer une stratégie que je vais lui proposer et il y aura peut-être un ou deux allers-retours et puis après, c'est fini.
Ok, c'est super intéressant toute la partie entrée dans le tunnel de l'appel découverte, tu vois. Enfin, forcément, quand tu proposes un document avec déjà des débuts de pistes et que le client il fait oui, c'est ça, oui, c'est ça, oui, c'est ça, enfin, le client, le prospect, si c'est pas encore un client, ben forcément, ça engage, enfin, ça aide, je pense, à signature, quoi.
Ouais, c'est sûr, au moins il sait où il va, quoi.
Ouais, exactement. Ben moi c'est un peu différent. Moi, comme j'ai jamais été en agence, tu vois, j'ai compris très vite qu'il fallait créer une stratégie assez béton pour les clients. Parce que quand tu fais que de l'opérationnel, ouais, tu t'épuises, tu vois, à la fin, tu sais, ça peut marcher quelques mois, et puis après, tu sais plus où tu vas, puis le client, à un moment, il fait plus appel à tes services, puis 3 mois plus tard, il dit, bah, tu reviens, mais en fait, tu te rends compte qu'en 3 mois, il n'y a rien eu sur ses réseaux, tu dois reprendre, enfin, c'est horrible, quoi, ce genre de truc.
Et surtout que l'opérationnel, ça demande un temps. Faut être costaud, hein, en
Bah, il
freelance
faut
pour
avoir,
vraiment faire de l'opérationnel.
il faut avoir un ou deux clients max. Enfin, moi, en fait, en
C'est
vrai,
ça.
à moins que tu fasses la même chose, tu fasses que un truc en opérationnel, c'est hyper dur d'avoir plusieurs clients à la fois, je trouve, en freelance. Et même s'il y en a qui y arrivent, hein, il y en a, c'est des machines d'organisation, et ils arrivent à avoir plusieurs clients à la fois, mais parce qu'ils font une seule chose et dans un domaine qu'ils connaissent très bien, quoi. Et ouais,
C'est ça.
mais en tout cas, voilà, j'ai compris ça bien vite, et j'ai, n'ayant pas travaillé en agence ou quoi, ben j'ai réfléchi en fait à une stratégie de contenu. C'est plus du contenu adapté à un réseau social ensuite. Et donc, moi, c'est vrai que je fonctionne un peu différemment. Du coup, ben, je te dis, tu vois, je t'explique le truc. Peut-être que tu vas pouvoir me dire ce que tu en penses. Je propose une stratégie en 3 parties. Il y a une partie où il y a de l'analyse dedans. C'est une partie où j'essaye d'analyser en fait l'environnement et les tendances social media, tu vois, du moment, l'organisation du client à l'intérieur de son entreprise, qui publie, qui dit quoi, enfin comment ça marche. Et puis aussi une partie où j'analyse le positionnement d'un concurrent qui est fort sur les réseaux sociaux, qui est concurrent du client, quoi. Après j'ai une deuxième partie où là j'essaie de comprendre ce que les employés, ils pensent de l'entreprise, tu vois. Avec un atelier aussi de rencontres, c'est vraiment collaboratif là pour le coup. Et comprendre les cibles en fait, les cibles dans leur ensemble, tu vois. Pas vraiment précisément, mais qui sont les cibles, c'est quoi les pain points rencontrés par les cibles et sur quel réseau elles vont ces cibles, tu vois. Et après, en troisième partie, bah là, je me dis, OK, bon, maintenant, on connaît les cibles, on sait on connaît un peu les valeurs que les employés veulent diffuser, tu vois. Et on connaît le positionnement d'un concurrent qui est fort. OK, quel contenu, maintenant, on va adresser à la cible et sur quel réseau social, tu vois. Et ensuite, je cale les objectifs en face de chaque réseau. Et c'est là que je peux dire, OK, on va faire une ligne éditoriale. À ces cibles-là, ben on peut, enfin vous voulez aller vers ça, donc vous pouvez leur parler comme ça, enfin avec un tel ton ou voilà. Donc ça, c'est un peu une stratégie que je propose. Elle est un peu plus longue, enfin c'est un peu long en fait. Ça peut être long, ça peut durer 1 ou 2 mois, tu vois. Toi, t'en penses quoi de ça, par exemple? Enfin,
Moi, je trouve ça hyper complet. Mais du coup, tu parlais des employés, c'est-à-dire que tu vas à la rencontre des employés, c'est ça?
En fait, ce que je fais, c'est que c'est la partie 2 du coup de la strat. J'organise un atelier qui s'appelle que j'ai appelé en fait atelier de storytelling, mais c'est pas vraiment ça. C'est pas du storytelling en fait. C'est un atelier. Comme je bosse avec des PME, max 20, 30 employés, c'est déjà beaucoup, mais pas plus parce que sinon je saurais pas comment faire en fait. Je dis à tous les employés de venir. Et des fois, il y a des freelances aussi qui travaillent depuis longtemps avec l'entreprise qui viennent. Avec les dirigeants, tout ça, et je les cale dans une salle de réunion, en fait. Et en fait, je leur fais faire des exercices qui semblent anodins, qui semblent un peu en surface, mais moi qui m'ont donné beaucoup d'indications, en fait. Ça dure 1 heure, 1 heure 30 max, hein, parce qu'il y a un temps de passage. Et les employés se présentent et disent ce qu'ils font, et ensuite ils disent des choses qui me permettent de comprendre, en fait, rapidement. Si c'est bien, si tout le monde a bien la même vision, ou s'il y a des dissonances, et quand les dirigeants parlent à la fin, je comprends en fait où ça va. Et ensuite, ils débattent souvent, ils débattent de toute façon. Ils finissent par débattre tous ensemble et tout, et des fois ça clash. Et ça me permet de comprendre très très rapidement s'il y a un problème dans la direction, hein, de la vision de l'entreprise, on va dire plutôt. Quand je vais proposer ma stratégie à la fin, quand je vais dire il faut tel contenu, machin, parce que j'ai remarqué souvent de ma propre expérience, moi personnelle, en tant que community manager salarié et après plus tard en CM freelance, j'ai remarqué que quand tu proposes une stratégie à une entreprise, si t'as pas impliqué les employés à un moment ou à un autre, il y a personne qui croit à la strat. Et voilà.
C'est sûr. Mais tu arrives facilement à convaincre parce que mettre en impliquer les employés, c'est je trouve que ça demande un effort dingue parce que c'est compliqué même de d'inciter déjà les dirigeants à impliquer les employés et surtout que eux trouvent du temps dans leur journée pour te répondre. Moi, je trouve ça hyper complet, c'est ce qu'il faudrait faire tout le temps en fait. Même limite, faudrait j'aimerais bien mais interviewer des clients historiques de la marque. Ça, si tu veux une stratégie ultra complète, c'est vraiment comme ça qu'il faut faire. C'est interviewer comme tu fais les employés, mais interviewer les clients. Et derrière, c'est là où tu vas avoir le plus de guidelines possible pour
Eh
la
oui,
suite.
bah en
Mais
fait, oui,
t'arrives facilement du coup?
eh ben, en fait, le problème de faire ça, enfin, quand tu me dis, toi, comment tu fonctionnes, et je me dis, putain, j'aimerais bien des fois être plus light, que le problème de faire ça, c'est quand, souvent, en fait, y a un niveau de complexité qui est élevé. Des fois, j'arrive à la fin de la phase 2 et je me dis, putain, je comprends rien ce que je vais faire, tu vois. Parce que c'est dur, en fait. Parce que les clients, ils disent des choses différentes, les employés aussi. Le positionnement du concurrent, il est pas exactement pareil parce qu'en fait, l'entreprise elle peut être un peu atypique des fois. Du coup, c'est dur en fait. Mais c'est pas du social media là. J'y suis pas encore à ce niveau-là, à ce moment-là. Et ça peut prendre longtemps, tu vois. Bon, allez, je veux te dire, moi clairement, ça me prend entre 1 et 3 mois. Et des fois, je me dis, mais tout seul, je suis pas assez en fait.
Ah,
Je
oui,
suis
c'est vrai.
pas assez et je me demande si c'est pas trop énorme, tu vois. Voilà. Mais c'est vrai que comme tu dis, bah là c'est très complet et moi ça me permet d'avoir une vision très claire des contenus à créer et des réseaux sociaux à écarter aussi.
Bah, je trouve que ce que t'as expliqué, c'est comme ça que devrais-je construire une stratégie tout le temps, en fait. Le problème, c'est que généralement, bah, t'as le budget qu'ils n'ont pas, t'as le temps qu'ils n'ont pas et le fait qu'ils veulent avoir une stratégie dans les 2, 3 semaines qui suivent la signature de devis. Donc, c'est moi, dans l'idéal, je fais comme toi, en fait. Mais
Oui.
dans la réalité des choses, puis je pense que tu dois aussi avoir le cas de ton côté, c'est que très souvent, quelqu'un qui va venir vers toi, il va vouloir commencer dans les 2, 3 semaines. Donc en fait, t'as pas le temps, tout le côté, interviewer des clients, interviewer des employés. Et malheureusement, t'es bien obligé parfois de faire confiance à la base, en tout cas, à la connaissance et à la vision du dirigeant ou du responsable de com qui est venu vers toi.
Ouais, exactement. Et c'est là que je rencontre un double problème. Le dirigeant, il a une vision qui est différente. Enfin, tout le monde a une vision qui est différente dans l'entreprise. Et le dirigeant est un peu biaisé par son intérêt à lui. C'est ça qui est. Et bon, après, le but, hein, c'est de créer du contenu social média et d'atteindre un objectif. Tu vois, bah souvent, bah, si c'est une entreprise, ça va être la rentabilité ou développer le chiffre d'affaires, acquisition de leads, tout ça. Mais souvent, ce que veut le dirigeant ou ce que disent les employés, ça n'a rien à voir, quoi. Et souvent, j'ai remarqué un truc, c'est que les employés dans l'échelle assez, les chargés de mission, on va dire, pas les responsables, eux, ils ont des choses hyper intéressantes à dire. Sans le savoir, ils disent des choses qui sont fondamentales, que les dirigeants, ils n'y pensent plus parce que eux, ils sont dans d'autres fonctions depuis longtemps, en fait. Ils sont plus
C'est
éloignés,
clair.
quoi. Voilà.
En fait, j'ai l'impression que quand tu es avec un dirigeant d'entreprise, tu vas surtout entendre parler de conversion et de nombre de fans sur ta page Facebook ou nombre d'abonnés sur ton compte Instagram. Généralement, c'est ça. Quand tu es avec un responsable de com ou avec un employé, peu importe, tu vas plus entendre parler d'image de marque et de taux d'engagement, etc. Mais c'est vrai que au final, tu te rends vite compte que les deux visions sont en conflit. Parce que derrière, tu vas, par exemple, quand tu as un responsable de com, derrière, il va revenir vers toi en disant, ouais, mais ce serait bien quand même d'augmenter la communauté, ce serait bien commencer à convertir. Alors, il faut convertir, hein, ça reste le but ultime. Hein. Mais social media, ça reste de la conversion sur le long terme. En tout cas, sauf si on passe par les social ads, forcément. Mais sur l'animation, on reste sur c'est les clients de demain qu'on construit.
Ouais, exactement. Ce que tu dis, c'est totalement vrai. Les dirigeants, eux, ce qu'ils voient, c'est un nombre de followers qui augmente exponentiellement. Moi j'ai tendance. Moi, j'ai la plupart de mes clients, ils sont comme ça. Hein. Enfin, ils veulent augmenter le nombre d'abonnés. Enfin, vraiment, ils pensent qu'à ça, quoi, on va dire. Et moi, ce que je dis. Et je pense que les CM, de plus en plus, il faudrait qu'ils arrivent à faire passer ce message. C'est que, en fait, si ta cible, c'est, par exemple, on va dire, par exemple, alors je vais te prendre un exemple que j'ai étudié, en fait, pour un client, c'est Station F à Paris, tu vois. Station F, c'est l'écosystème startup qui propose des programmes, plein de programmes pour des startupeurs, pour des startups en fait qui sont en phase d'accélération. Et en fait, Station F, leur but ultime, bah, c'est de faire rentrer de nouvelles startups qui ont quand même du potentiel pour rejoindre un de leurs programmes à Paris, tu vois, pour plusieurs mois, quoi. Donc, eux, leur but ultime, c'est de faire rentrer des startups. Donc, comment faire pour ça? Il faut enfin, je pense qu'ils ont très très bien étudié le profil en fait des dirigeants de start-up, des CEO, tout ça qui avaient envie de décoller. Et ils ont bien étudié tout ça. Et en fait, quand tu vois, je pense sur leur réseau social d'acquisition, un de leurs réseaux sociaux d'acquisition les plus importants, je pense que c'est YouTube. Ils sont partout, ils sont présents partout. Ils ont des grosses communautés sur Facebook, Instagram, tout ça. Mais YouTube, ils ont une petite communauté. Il y a genre, je sais pas, ils sont 4 000 ou 5 000, je crois, abonnés à la chaîne. Et en fait, quand on se dit, mais ils ont que 4 000 ou 5 000 abonnés, attends, il faut que je vérifie, hein, je te dis pas de conneries, parce que sinon, dans le podcast, ah, il y a un mec qui dit Station F, ils ont une petite communauté sur YouTube. Non, je crois que c'est ça, c'est 4,46K. Ça fait 5 000, non? Ou 44 000?
Ça fait 4460.
400, ouais,
C'est
voilà.
ça?
4 000, enfin, ça fait 4,49K abonnés. Enfin, je sais pas. Ouais. Je
Ouais,
pense que c'est 4 000. Ouais.
4490.
Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, on pourrait croire que c'est une mini communauté, tu vois. Une communauté vraiment rikiki. Mais en fait, si tu rapportes à la cible de Station F, donc des CEO hein, de startups qui sont parfois tout seuls hein, et qui sont potentiellement intéressés pour entrer. En fait, si tu rapportes à cette cible-là, en fait, c'est énorme. Parce que 4 000 potentiels créateurs d'entreprises ou déjà des personnes qui sont déjà passées en incubateur, qui ont déjà une entreprise qui est bien assez calée, tout ça. Bah, finalement, ou des investisseurs, tu vois. Bah, si tu rapportes à cette cible-là, en fait, c'est plutôt intéressant, quoi.
Moi, c'est mon combat de tous les jours, depuis 2 ans, le fait d'aller chercher toujours à avoir le plus d'abonnés que son concurrent. Et je trouve qu'en fait, c'est de moins en moins pertinent. Parce qu'en fait, avec le reach organique qui baisse de plus en plus, tu vas, à force de vouloir absolument trouver les abonnés, tu vas amener des gens qui ont aucun intérêt chez toi via des jeux concours, par exemple. Et qui n'ont pas d'intérêt pour ta marque, qui n'ont pas d'intérêt pour tes produits. Et en fait, quand tu vas publier un post, tu as par exemple Facebook qui va toucher 3% de ton audience complète. Et en fait, peut-être que quand tu avais, par exemple, je prends un chiffre au hasard, mais quand tu avais tes 3 000 abonnés dans ton confort, et ben au moins tu savais que tu allais toucher 3% de personnes intéressantes. Là, peut-être que tu as fait un jeu concours, plusieurs jeux concours qui t'ont amené 15 000, 20 000 abonnés, dont 10 000 qui n'ont rien à faire. Et en fait, maintenant, tu vas toucher 3%, mais la moitié, ça va être des gens qui ont aucun intérêt pour ta marque, et l'autre moitié, des gens qui ont un intérêt. Donc en fait, je pense qu'au final, avoir plus d'abonnés, ça peut limite faire en sorte que tu vas toucher encore moins de gens qu'avant, de moins de gens intéressants. Et ça, c'est vraiment le problème principal de l'éducation qu'on doit avoir avec nos clients, et qui, j'avais l'impression que ça fait 5 ans que ça se travaille.
C'est clair, t'as raison. Ça fait des années qu'on le dit, mais que ça rentre pas. Oui, bien sûr.
Ça s'améliore, mais
Oui.
petit à petit. Mais ça s'améliore. C'est-à-dire que vraiment, il y a 3-4 ans, t'entendais parler que de ça. Il n'y a même pas tant
Ouais.
d'engagement, il n'y a même pas de reach.
Non.
C'était vraiment le nombre de fans absolument. là, ça commence à devenir un objectif parmi les autres. Donc, c'est déjà un peu mieux. Mais moi, je suis. Pour moi, c'est une vanity metrics, vraiment le nombre de fans.
Oui, bien sûr.
Et c'est le principal problème que je rencontre, mais c'est avec tous les clients. Et le problème, c'est que il y a beaucoup de personnes de l'ancienne génération dans les entreprises qui ont encore cette vision que si tu veux réussir sur les réseaux sociaux, en fait, il faut que tu aies plus d'abonnés que ton concurrent. Donc en fait, ce qu'il va faire, tu vas réussir, c'est que tu vas donner le bon message à la bonne personne, que tu vas réussir à fidéliser, créer des ambassadeurs, que les gens que ta marque va devenir le réflexe d'achat quand ils auront un besoin. C'est ça en fait, c'est pas le nombre de fans que tu vas avoir. Et
ouais,
ce que je leur explique souvent c'est que s'ils veulent 1 million d'abonnés, ils peuvent l'avoir demain. Tu vas sur achat fan Facebook, tu vas trouver 1 million d'Indiens, ils vont avoir 1 million de personnes, mais derrière leur compte est mort.
Ouais, non, mais c'est exactement ça. Comme tu dis, les indicateurs de performance aujourd'hui, ils ont complètement changé. Les réseaux sociaux, c'est pas. En fait, les communautés, c'est pas des vaches à lait, tu vois. C'est pas genre, on a plein, comme ça, on leur vend plein de trucs. C'est vraiment une vieille vision bizarre du CM. Mais je vais te dire pourquoi. Enfin, à mon sens, tu vois. Il y a pas mal de dirigeants qui pensent que les CM sont des magiciens et des exécutants, magiciens exécutants, tu vois. Je trouve que le community manager, déjà, il est vu comme un exécutant. Et ça, c'est un premier problème. Et deuxième chose, le CM, c'est un exécutant, mais qui fait des choses magiques, quoi. Et qui peut faire monter d'un coup en une année de 20 000 abonnés, tu vois.
Et sans budget.
Ouais, et sans budget, ouais, et sans payer plus, bien sûr. Non, mais moi, j'ai déjà entendu ça de la bouche de clients. Comment on peut atteindre 20 000 abonnés sans payer? Il faut que tu me trouves la solution. Oui. Pour hier.
Je la cherche encore.
Non, mais ouais, j'ai déjà eu ces remarques. C'est vrai. Comme tu dis, il y a de la pédagogie à faire, autant sur le métier et autant sur tout ça, quoi. Maintenant, toi, tu travailles plutôt dans on va dire le business to consumer, c'est ça, B2C, c'est-à-dire pour des marques qui vendent à des particuliers, ça.
Principalement, ouais. En tout cas, j'ai été habitué à ça en agence plus que le B2B.
D'accord.
Après, peut-être qu'on en reparlera après, mais mon expérience du coup sur Encoding depuis un an que j'ai dû faire pour travailler mon personal branding me permet à présent d'être beaucoup plus à l'aise avec le B2B et d'être beaucoup plus pertinent quand je fais des stratégies là-dessus. Mais c'est vrai que ce que je préfère, c'est le B2C.
Tu vois, moi, j'ai commencé dans le secteur B2C aussi, et je comprenais rien à LinkedIn au départ.
Pareil.
Comme ça, c'était il y a 2-3 ans, je comprenais rien comment ça se faisait. Maintenant, je travaille plus dans le B2B. J'utilisais beaucoup plus LinkedIn et de moins en moins les autres réseaux. Et du coup, c'est vrai que ça a tendance à changer. Mais non, ça reste maintenant plutôt dans cette optique-là. Donc, du coup, maintenant, je comprends de moins en moins les nouveaux réseaux qui arrivent, genre TikTok et tout. Toi, comme tu es dans le B2C, TikTok, du coup, tu l'as intégré dès que c'est arrivé.
Alors, je me suis intéressé dès que c'est arrivé. Et puis, j'ai vite vu le potentiel. Enfin, j'ai vite vu que ça allait pas être un réseau qui allait partir. Et j'ai très vite défendu ce réseau. Par contre, intégrer, si tu le penses dans ma stratégie, c'est compliqué. Parce que quand t'es freelance, là justement, quand je te disais tu peux pas créer du contenu, là moi c'est ma problématique du moment, c'est les Reels et TikTok qui sont en train de transformer l'animation des réseaux sociaux, qui sont de plus en plus importants. Ça te demande quand même soit une capacité de créer du contenu très facilement, soit d'appliquer les employés avec de tes clients, enfin de ta marque avec qui tu travailles, et là ça demande beaucoup de temps d'éducation, etc. Donc c'est un peu la problématique du moment. Donc intéressé sur TikTok complètement, je trouve que c'est un réseau incroyable avec plein de potentiel. L'intégrer, c'est encore une autre problématique.
Bah, en fait, c'est vrai que sur TikTok, en fait, enfin, les Reels, tout ça. Enfin, moi, il y a un truc que je trouve qui a changé sur les réseaux sociaux et c'est intervenu un peu avec l'arrivée de TikTok, bah, un peu avant. Et je trouve que TikTok et LinkedIn, ils arrivent particulièrement à capter en fait cette tendance-là. C'est l'incarnation de la marque au niveau du créateur. Je sais pas si tu vois. Dans la communication de marque, on met vachement en avant les employés. Et en dehors de la communication de marque, il y a les profils employés aussi qui émergent et dont les profils dirigeants, par exemple, sur LinkedIn ou ça peut se faire aussi sur TikTok et qui prennent un peu le pas des fois sur la communication de marque. Ça, c'est une difficulté enfin, c'est pas une difficulté, mais c'est un truc qui est apparu dernièrement et avec la pandémie encore plus, tu vois. Les gens préfèrent s'adresser à des gens, enfin, voilà.
Bah, la mise en avant des employés, c'est pour moi la tendance principale sur les réseaux sociaux depuis 6 mois, 1 an. Et c'est compliqué d'inciter des clients à le faire, d'inciter les employés qui n'en ont rien à faire généralement des réseaux sociaux. Mais c'est ce qui fonctionne et c'est, je trouve, une des principales manières actuelles de vraiment créer une fidélisation autour de ta marque. Et c'est vrai que maintenant, tu as même sur LinkedIn l'incarnation, c'est même plus la marque qui parle, c'est vraiment l'employé directement. Ce qui, pour moi, en ce moment, si je devais faire une stratégie B2B sur LinkedIn, c'est absolument ce que je leur dirais de faire, c'est oublier les pages de l'entreprise, communiquer individuellement. Et on va plutôt pas travailler sur une communication de marque, mais une communication individuelle, avec chacun qui aura sa ligne propre et éditoriale. Et en fait, c'est vraiment ce qui fonctionne. Et quand tu vois les résultats de LinkedIn, moi, à chaque fois, je suis impressionné. Moi, voilà, ma copine, récemment, a fait un post LinkedIn. Elle avait 500 abonnés de base. Elle a fait un post avec 800 likes et genre 30 000 vues de postes avec plus de 300 plus peut-être plus 600 ou 700 vues de profil. C'est
Énorme,
je suis
ouais, non,
je
c'est
suis encore
absolument.
impressionné
Non, ouais, carrément, moi je suis jamais arrivé à des niveaux comme ça. Après, moi je suis pas un dingo de la publication sur LinkedIn, mais enfin, pour moi en tout cas, mais c'est vrai que c'est hyper impressionnant ces stats en personal branding. Et quand tu fais bosser des clients, là je te rejoins à 100% dessus. La grande tendance, c'est vrai que c'est l'incarnation la marque au niveau individuel des employés. Mais ça dérange beaucoup les entreprises, ça dérange beaucoup les dirigeants. Il y en a qui disent, ouais, mais moi je veux mettre la marque en avant, tout ça. Comme tu dis, ça date de 6 mois à 1 an. C'est vraiment nouveau. Et je pense que c'est monté en force avec TikTok, avec la pandémie aussi, qui fait que les gens, maintenant, ils en ont marre, ils ont envie de voir des gens, ils ont pas envie que des marques leur parlent, ils ont envie que ce soit des personnes, des vraies personnes, quoi. Qui ont des sentiments, des émotions, qui sont déjà des fois pas d'accord ou quoi. Et je pense que c'est ça qui fait que le métier de CM, il est en train d'évoluer aussi avec ça, quoi. Savoir conseiller
Et
sur ça, en tout cas, ouais.
surtout dans un monde où il y a plus en plus de défiance envers les marques, tu crées directement beaucoup plus facilement de la sympathie quand c'est un employé qui l'incarne.
Ah,
Déjà.
exactement, ouais. Mais par contre, garder la communication au niveau de la marque, c'est toujours important pour bah, quand il y a une crise, par exemple. Quand il y a une crise, situation de crise, c'est-à-dire y a un sujet qui explose ou quoi, là, c'est intéressant de se pouvoir justement rejoindre la marque et que la marque puisse parler au nom de tous, quoi.
Ouais, quand même.
Par exemple, moi, ce que je dis aussi, c'est quand. Les dirigeants, on les connaît, mais pas forcément. Les personnes qui consomment la marque ne connaissent pas forcément leurs dirigeants ou leurs employés et vont plutôt s'adresser directement à la marque en mode SAV, quoi, ou service client, ou quoi. Donc c'est toujours important d'avoir cette communication. Ouais, c'est vrai qu'en community management, tu as un peu ces deux-là ces deux aspects-là qui ressortent. Toi, quand tu bosses avec tes clients, donc en B2C, tu bosses dans quel domaine?
Alors, moi, vu que je viens de l'agence, j'ai jamais eu un secteur particulier. C'est-à-dire que je travaille actuellement, je travaille autant avec une banque qu'avec des bars de karaoké, qu'avec une solution domotique. Donc tu vois, on est virage 180. Mais donc j'ai pas de secteur particulier. Moi, ce qui m'intéresse le plus quand je cherche un client, c'est est-ce que je vais pouvoir établir une relation de confiance avec lui? Parce que voilà, en fait, je pense que quand tu es freelance, très très rapidement, tu as 20% de tes clients qui peuvent facilement prendre 80% de ton énergie, et c'est pas du tout ce que je cherche. Moi, j'ai envie vraiment de créer une relation où, de confiance, où tu peux être transparent avec le client, où enfin voilà, où tu peux avoir une collaboration honnête, que ta personne qui est au-dessus de l'autre, tu vas pas être un exécutant, et toi tu vas pas non plus prendre de haut ton client. Donc pour moi, c'est surtout ça que je cherchais. Donc c'est plus B2C en effet, mais c'est surtout au-delà d'un secteur, c'est surtout la personne qu'il y a derrière, et surtout la stabilité de l'entreprise. Enfin, quand je dis stabilité, c'est justement qu'il n'y ait pas trop de visions différentes et de combats hiérarchiques à l'intérieur de l'entreprise. Parce que sinon, ça part vite en cacahuète.
C'est sûr. Ouais, du coup, ok. Mais je voulais dire aussi, de par les réseaux sociaux sur lesquels tu travailles, est-ce que par exemple, t'as déjà proposé TikTok à un de tes clients ou, comment ça marche? Comment tu fais pour. Est-ce que le client est déjà sur des réseaux sociaux et tu lui dis, ok, c'est pertinent ou pas, et toi, tu lui proposes autre chose ou comment ça fonctionne en fait?
Généralement, ouais, je regarde sur quel réseau ils sont, et derrière, genre, enfin, je vais pas m'intéresser en fait au réseau où ils sont, je vais vraiment essayer de m'intéresser aux réseaux qui sont pertinents pour eux, enfin, que j'estime pertinents pour eux et par rapport à leur cible. Après, est-ce que j'ai déjà proposé TikTok? Oui, j'ai déjà proposé TikTok, mais pas dans l'anime. J'ai jamais proposé d'animer. En fait, généralement, quand je propose TikTok, je propose de passer par un externe qui va, où tu vas faire un ou deux jours de tournage, qui on va, tu vas réfléchir à des types types de mécaniques d'animation, des petites scénettes qui vont pouvoir animer le TikTok pendant 6 mois, 1 an. Ça, je l'ai jamais encore vendu, mais c'est en tout cas, généralement, quand je propose TikTok, c'est ce que je propose. Et pareil pour les réseaux.
Ouais, alors moi j'ai une autre un fonctionnement différent, je pense, dessus. C'est si j'estime que TikTok ça peut être un réseau intéressant pour l'entreprise, en fait, je leur dis, en fait, il va falloir vous que l'équipe s'en empare en fait. L'équipe,
Clairement.
si un responsable com, c'est encore mieux parce qu'il peut faire le lien. Si on n'a pas, il va falloir que quelqu'un dans l'équipe s'en empare. Si c'est pas le dirigeant, il faut que ce soit quelqu'un qui aime faire ça. Ça peut être quelqu'un de plus jeune, c'est encore mieux d'ailleurs. Surtout si la cible elle est plus jeune. J'ai jamais réussi à le faire non plus parce que en fait, en vrai, je pense que TikTok ça fait peur. Ça fait peur parce que c'est un réseau qui est pas comme les autres. C'est un réseau, c'est la vidéo. Mais pourtant, c'est un réseau qui est ultra utilisé, qui est aussi grand public que Facebook maintenant, donc ou Instagram. Donc c'est vrai que c'est voilà. En fait, ça rajoute une couche de plus au CM, se dire ok, je sais que je suis pas bon sur TikTok, je suis pas un pro de TikTok, mais pourtant ça correspond très très bien à la cible de mon client. Je peux pas faire l'impasse dessus. En fait, je crois que c'est là le métier de CM où il devient difficile. C'est quand t'es pas, tu sais que t'es pas assez bon sur un réseau social, tu vois. Parce que tu l'as jamais vraiment pratiqué. Bah, ça va arriver, de toute façon. Il y aura toujours des nouveaux réseaux sociaux qui vont arriver et tu
C'est
pourras pas
sûr.
être un pro de tout, tu vois, de Twitch, de TikTok, de Mastodon, enfin, j'en sais rien, mais tous les réseaux qui arrivent, ou qui sont déjà en place, ou voilà. Donc forcément, je pense que t'as intérêt à plutôt t'intéresser quand t'es CM à la communauté du client, à la cible, comment elle fonctionne, ses usages, tout ça. Et après, c'est vrai que c'est difficile de trouver, de dire, allez-y sur TikTok parce que votre cible elle est dessus, mais vous vous démerdez. Il faut essayer de donner des
Ça.
pistes quand même. Ouais.
Ouais, il faut donner des pistes. Moi, généralement, là, l'idéal, c'est Toi, tu fais une réunion de conseil mensuelle où tu vas analyser avec eux ce qui a été fait, ce qui a performé, ce qui a moins bien performé. Mais c'est en fait c'est vrai que vu que c'est nouveau et vu que ben c'est sans filtre en fait TikTok, c'est dur à motiver de motiver les gens à le faire. Et puis c'est quand même particulier, c'est-à-dire que TikTok, faut quand même s'imprégner quand même de l'outil de montage qui est intégré à TikTok, qui est pas facile forcément en premier temps. Même pour moi, je pense que là, si tu me demandais de faire un TikTok, je suis pas sûr que j'arriverais à le faire en 5 minutes, toi. Ouais, je trouve que le métier devient de plus en plus complexe, en tout cas dans la création de contenu. Et va falloir trouver une solution. Parce que je pense que TikTok et les Reels et notamment les vidéos vont devenir indispensables en fait dans une stratégie de plus en plus dans une stratégie social media. Sauf que c'est des contenus qui sont bah, beaucoup plus durs que créer une image, un visuel et que tu vas poster sur ton Instagram, forcément. Donc c'est une autre approche. J'ai pas encore trouvé forcément la meilleure solution pour ça. Mais je suis en train d'y réfléchir.
Ouais, mais c'est vrai, parce que tu vois, il y a des SEM qui sont passés dans le podcast. Je pense notamment à Emmanuelle Gardan, qui est des premiers épisodes. Elle a un client qui s'appelle, c'est une start-up dans le cosmétique bio à Angers, je crois, qui s'appelle J'aime mes dents. Et elle gère le compte Instagram de J'aime mes dents. Et c'est elle qui fait. Elle fait vraiment le CM total, tu vois. Elle est social media manager, media manager, et fait le CM complètement, fait les reels. Les réels, fait les stories, et en fait, elle fait la modération, donc elle fait tout, tu vois, pour ce client-là, mais depuis des années. Et quand je vois comment elle le fait pour un client, je sais pas si elle le fait pour les autres, mais en tout cas, elle le fait pour celui-là. Et en plus, quand t'es CM freelance, franchement, enfin, il y a un temps où t'es obligé d'apprivoiser la communauté, tu peux pas être bon direct. Il faut
C'est
extrêmement
clair.
bien connaître la communauté pour faire des contenus qui matchent parfaitement. Ça prend du temps, ça prend des mois, hein, franchement. Donc, c'est vrai que le CM Freelance, c'est tout un monde. Enfin, ce que tu dis, là, la vidéo, tout ça, bah, ça, il va falloir trouver des solutions, hein, ça, c'est sûr.
C'est pour ça que peut-être que l'avenir de plus en plus d'entre nous va être dans le conseil, en fait, dans la stratégie. En fait, tu vas avoir des gens qui vont faire le contenu en interne et toi qui vas être plus en fait en consultant. Bah, du coup, avec ton expérience, avec ta connaissance des codes sur les réseaux, tu vas pouvoir les guider sur voilà ce que j'ai fait, ce qui est performant, ce qui est moins bien performant, ce qui peut être fait par la suite, comment on pouvait améliorer ça, etc., etc.
Ouais, c'est
Mais
clair.
ça donne une transformation du métier où du coup on est moins dans le côté CM exécutant, mais un peu plus dans le côté CM consultant.
Ouais, et puis en fait, en vrai, comme c'est un autre métier, comme tu dis, en fait, il y en a qui, à un moment, je pense, qui feront que des reels et des TikTok, tu vois. Enfin, d'ailleurs, c'est un peu les influenceurs, mais je pense qu'il y a des personnes, des freelances, qui feront que ça, bientôt, là. Enfin, ça doit être en
Ah
train d'être fait en
bah
ce moment même, mais.
si, d'ailleurs s'il y en a qui nous écoutent et qui savent le faire, allez-y, hein.
Ouais, c'est
Lancez-vous
clair.
là-dedans, c'est
Ouais, à 100%. Non, mais c'est clair. En fait, en vrai, c'est ça. Mais après, par contre, le proposer tout seul, c'est complexe. Il faut que ce soit dans le cadre d'une stratégie. Mais c'est sûr qu'en vrai, s'il y en a qui nous écoutent et qui ont des facilités là-dedans, il faut y aller à 200%. La spécialisation,
Ah ouais,
là, c'est intéressant. Ouais.
ça va être une demande des clients, une demande de nous, freelance, social media managers,
Ouais.
enfin, des
Ouais.
agences. Il va y avoir une demande forte là-dessus, c'est ça.
Du coup, toi, pour trouver des clients, comment ça se passe en fait?
Moi, j'avais deux problématiques quand je me suis lancé. C'est un, je suis un très mauvais commercial. Enfin, commercial, quand je te dis commercial, c'est d'aller voir une personne et de vendre alors qu'il n'est pas du tout intéressé de base. Ça, je ne sais pas faire. Et de secondo, c'est ben, je vais être à distance, forcément. Donc moi, en fait, la principale stratégie que j'ai faite, c'est travailler mon personal branding et notamment sur LinkedIn. Bon, en fait, bah, du coup, à part depuis mai 2020, je crois, je publie régulièrement sur LinkedIn. Alors, j'ai commencé par un poche par jour, puis j'ai fait 3 poches par semaine, puis j'ai fait des pauses, puis je suis revenu. Mais en fait, moi, l'intérêt, c'était de devenir un réflexe d'achat. C'est-à-dire que quand une personne a un besoin, qu'elle pense à moi direct, parce que elle a aimé la façon dont je présente les choses, mes valeurs, peu importe, peut-être ma tête, j'en sais rien. Je sais pas quels sont
Un, deux, trois.
les arguments. Ouais,
Ouais.
j'espère que c'est pas que pour ma tête, mais du coup, c'est surtout ça que j'ai travaillé. Moi, je me suis dit, bah, comment faire pour communiquer sur ma vision du métier et mes valeurs, et comment trouver, bah, du coup, rapidement et facilement des clients à qui je peux établir cette relation de confiance, bah, c'est justement en les partageant sur LinkedIn. Et en fait, généralement, les gens qui viennent vers moi, c'est des gens à qui on partage à peu près déjà la même vision de travail et la même vision du social media. Du coup, c'est un travail sur le plus long terme. Et moi, ça m'a permis, bah, d'avoir quasiment que des clients sympa avec qui c'est un plaisir de travailler, tout en prospectant quasiment jamais. Donc en fait, c'est comme ça que je travaille, c'est vraiment via LinkedIn et via le personal branding.
Ah, c'est super intéressant. C'est vrai que la prospection, en fait, c'est dur, c'est compliqué. Et tu l'avais dit la dernière fois, t'es pas en position de force quand t'arrives en prospection, et c'est vrai
Ouais.
en fait. T'es en position de, t'as intérêt à amener ça très très délicatement, très finement pour que ça fasse pas en mode gros bourrin, quoi. En tout cas, c'est vrai que le personal branding, c'est intéressant. Moi, j'ai un fonctionnement un peu différent encore, et je me suis mis dans un coworking, dans un écosystème, en fait, où il y a plein d'entreprises, et je fais du captif, en fait. Je crée des relations, on va dire, avec des prospects, sur le long terme, que je vois un peu tous les jours, ou de temps en temps, ou que je rencontre dans les événements. Alors, les événements, avec le Covid, c'était mort, mais j'étais toujours dans cette dynamique, dans ce écosystème, et en fait, je rencontre des prospects, et des fois, ça peut se terminer en client, ou des fois, ils connaissent quelqu'un qui a des besoins ou quoi. Donc, c'est vraiment en mode captif, tu vois. Mais après, bon, tu peux pas rester éternellement là-dedans, et le personal branding, c'est super important. Donc, c'est sûr que LinkedIn, c'est vachement intéressant comme moyen d'approche. Moi, bizarrement, je crois que j'ai jamais trouvé un seul client sur LinkedIn. Une fois, il y a un prospect qui est venu me chercher sur Instagram. Et alors, je suis jamais sur Instagram. Je sais pas pourquoi. Mais LinkedIn, non, c'est jamais arrivé, quoi.
Tu communiques régulièrement sur. Bah, t'as
Non.
déjà fait
Non,
vraiment une
non.
stratégie. Bah, c'est pour ça, en fait, tout
Ouais,
simplement.
non, mais je communique pas régulièrement. Je pourrais, parce que j'ai le contenu pour, avec le podcast, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Mais je le fais pas parce que le podcast, ça me prend beaucoup de temps à réaliser, et mes clients aussi. Et du coup, j'ai du mal à dégager un peu du temps pour le réseau. Enfin, je le fais de temps en temps. Des fois, je le fais régulièrement, 2, 3 fois par semaine, puis des fois, je lâche pendant 2, 3 mois. Ouais, mais parce
Ouais.
que, ouais.
Je pense que après, faut pas se forcer non plus. En fait, je pense que la meilleure manière de faire, c'est de faire ce qui te plaît, en fait. Moi, poster sur une colline, c'est quelque chose qui me plaît. Puis parfois, pendant 2 mois, j'ai pas publié parce que entre pas le temps et puis l'envie. Et puis après, je vais revenir. En fait, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Faut quand même essayer d'être régulier, mais faut faire ce qui te plaît. Et par exemple, toi, je pense que t'as peut-être par nature une personnalité où tu vas être beaucoup plus à l'aise en physique, tu vois. Et du coup, c'est complètement logique ce que tu fais. C'est là où tu vas montrer tes meilleurs atouts. Alors que peut-être que bah t'es peut-être moins à l'aise, c'est pas sur une manière de parler de toi et de te dévoiler sur LinkedIn. Et du coup, bah tu vas le faire, mais à tatillon, et tu vas peut-être mal le faire. Et donc finalement, ce sera peut-être pas si efficace. Moi, c'est plutôt l'inverse, tu vois. Donc, je pense que faut trouver avec le contexte que t'as. Moi, par exemple, mon contexte, c'est aussi digital nomade. Et en fonction de tes qualités, quelle est la meilleure manière pour toi de prospecter? Quelqu'un qui est un très bon commercial, bah, prospecter, travailler sur le gros hacking et puis il y aura des résultats incroyables aussi. Mais je pense qu'il faut faire en fonction de ses atouts.
Ouais, c'est comme tu dis, c'est chacun sa technique. Il y a pas d'obligation, mais c'est vrai qu'après c'est intéressant de trouver des prospects qui sont déjà en phase avec toi-même. Ça c'est vachement bien, je trouve. Après moi, je en discutant, en échangeant, au fur et à mesure, voilà, ça vient aussi, tu vois. Donc oui, c'est vrai, c'est un peu. En vrai, je vais y aller sur LinkedIn à un moment, je pense, parce que il faut j'y aille, quoi. Et puis ça me fait bosser la rédaction un peu, tu vois. Enfin, c'est toujours intéressant d'écrire, tu vois, pour soi-même. C'est dur, mais c'est intéressant de le faire, quoi.
Et d'ailleurs, je divague un peu, mais tout à l'heure on parlait justement de mettre en avant les employés, des visages. Et ben depuis, ça va faire depuis début août que je recommence à publier sur LinkedIn, où là je commence à vraiment mettre que des photos de moi. Donc vraiment je me montre. Alors qu'avant je mettais des carrousels avec des astuces sur social media. Et ouais. Ben les performances c'est x2, x3 par rapport à avant. Donc, tu vois, même sur une communication de personal branding, les gens ont besoin d'un visage et de montrer sa personnalité, quoi.
Ouais, totalement. Mais ce que tu dis, en fait, moi, j'avais testé en début d'année, là, en janvier, j'ai envoyé un post de moi en train de modérer pendant un événement sur Facebook et tout. Et c'est vrai que le nombre de vues, il avait été explosif par rapport à ce que j'ai normalement avec le podcast. Donc, c'est vrai que tu montes ta tronche. En fait, tu parles de podcast, tu montes ton visage dans plein de situations. Mais c'est ce que font, en fait, ce que font beaucoup, beaucoup de gens sur LinkedIn. Mais c'est vrai que ils le font parce que les gens préfèrent se rapprocher à un visage, c'est vrai, à un sourire, à ce qui se passe dans les yeux.
Faut assumer être un peu égocentrique.
Voilà, oui. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est ça. Faut assumer ça. T'as raison, c'est vrai.
Du coup, et désolé ouais. Si certains ne m'aiment pas à cause de ça.
Non, c'est vrai, c'est un truc qu'il faut creuser. Et, du coup, je voulais aussi te parler de, tu vois. Pour ceux qui nous écoutent, pour toi, qu'est-ce qui est important à développer comme compétence, tu vois, pour être CM, pour aller dans la durée, tu vois. C'est quoi un bon CM pour toi?
Un bon CM ou un bon freelance, du coup?
Eh ben, en fait, tu c'est super ta question, parce que CM, déjà, c'est compliqué. Alors, et freelance aussi. Et les deux ensemble, c'est casse-tête. Un bon CM, ouais.
Un bon CM, en fait, ouais, mais c'est pareil, parce que ça dépend qu'est-ce que tu veux faire en tant que CM. Moi, je pense que globalement, un bon CM, c'est quelqu'un déjà qui va savoir forcément être organisé, parce que tu vas, sauf si tu te spécialises dans un secteur, mais tu vas passer d'un client à l'autre, donc faut être organisé et flexible, et savoir vite s'imprégner d'une marque et du ton d'une marque. Après, moi, j'ai quand même envie de parler un peu de free, mais pour moi, un bon CM freelance, c'est quelqu'un qui ne se brade pas, qui ne va pas faire une concurrence, enfin une compétition budgétaire par le bas. En fait, pour moi, ça, c'est une erreur de beaucoup de freelance CM débutants qui se disent, en fait, si je veux avoir plus de clients, il va falloir que je sois plus bas que mon concurrent. Alors en fait, le problème de faire ça, c'est qu'en fait, tu risques d'avoir des clients qui vont être juste pénibles avec toi et qui vont pas en fait mettre des sous sur toi parce que ils estiment que tu vaux le prix qu'ils vont mettre, mais parce que t'es moins cher que les autres. Et généralement, c'est très souvent, à 90% des cas, les clients les plus pénibles. Donc, je pense que c'est beaucoup plus important de vraiment réfléchir à qu'est-ce que tu vas apporter à ton client, quelle méthodologie tu vas apporter à ton client et quelle valeur tu donnes à ce travail. Et je pense que vraiment le fait le réflexe de base de vouloir se brader et de vouloir être moins cher que les autres freelances, c'est une très mauvaise idée.
Ouais, ça c'est clair que plus tu vas vers le bas, plus tu attires des gens qui sont déjà dans le bas. Donc ouais, c'est sûr que
et puis surtout du coup t'es obligé d'avoir 6, 7, 8, 9 clients en même temps. Donc t'as intérêt à être très bien organisé.
Oui. Ouais. Exactement, mais même quand t'es organisé, généralement, à la fin, tu fais un burn-out dans tous les cas. Non, c'est vrai
C'est
ce que tu
clair.
dis. Ça, c'est une condition, ouais, vraiment de CM Freelance. Après, CM Freelance, enfin, les community managers salariés qui sont en entreprise, ils ont plein de problématiques aussi différentes. Notamment, ils doivent faire plein de trucs à la fois, et plus que du CM, ça, souvent, c'est le cas.
Ah, l'autre, je pense, qualité indispensable pour un CM, c'est d'être en veille complète et surtout ne pas quand un autre réseau arrive. Et y en a eu j'en ai vu des community managers qui l'ont fait sur LinkedIn notamment. Quand TikTok est arrivé, il y en a eu plein qui se sont dit, c'est quoi ce réseau avec que des gosses qui dansent, c'est nul. Alors qu'en fait, je pense qu'il faut vraiment être curieux et s'intéresser, être ouvert, hein, parce qu'en fait derrière tu loupes plein d'opportunités. Mais maintenant que le métier devient un peu plus vieux, tu te rends compte que si tu regardes un peu dans le passé, ça a été l'erreur de tout le monde, mais tout le temps. Il y a un moment Instagram, c'était TikTok où tout le monde hésitait à aller sur Instagram, tout le monde disait c'est quoi ce réseau où il y a que des influenceurs qui se montent en maillot de bain. Il y en a eu plein en fait des codes qui ont changé et généralement surtout chez annonceurs, ils arrivent toujours 3 ans trop tard. En fait, et quand c'est le secteur, enfin quand le réseau est hyper bouché, TikTok dans 2 ans c'est hyper bouché, c'est pareil, ça va être un bordel pour se mettre dessus. Et du coup, moi je pense que faut vraiment être ouvert au réseau et s'intéresser, voir si comment ça prend et si c'est vraiment intéressant pour tout client. Je sais qu'à un moment il y a Clubhouse aussi qui a cartonné. Alors, je pensais qu'il allait pas, elle a pas mieux marché, mais bon, ils ont tellement voulu bloquer Android que, du coup, je pense qu'ils sont cassés la gueule. Mais tu vois, pareil avec Clubhouse, pareil, il y en a qui sont mis direct dessus en disant c'est
C'est
le
nouveau,
réseau du futur. Et t'en as d'autres qui sont dit c'est quoi tous ces entrepreneurs bullshit qui parlent entre eux. Donc et en fait je pense que ce qu'il faut c'est être entre les deux, c'est vraiment analyser les petits nouveaux et se dire ok, est-ce que ça peut être une tendance pour les prochaines semaines, mois, années, et quels sont les codes et aller plus loin que le syndrome TikTok, c'est que des gosses qui dansent.
Oui, après, ça c'est vrai que parce que il y aura toujours de nouveaux réseaux qui vont arriver et ça va être de plus en plus éparpillé, donc il faudra toujours avoir ouais, comme tu dis, une curiosité déjà. C'est vrai que la curiosité c'est super important quand t'es CM. Si t'es pas curieux, si t'essayes pas de t'ouvrir ou tu marches toujours sur les mêmes trucs, bah en fait enfin le monde du CM change à fond la caisse. Tous les jours il y a un truc nouveau, j'ai l'impression.
C'est
Qui
clair.
change, et du coup, c'est vrai que c'est un métier où tu es sans cesse obligé d'être au courant, et ça change tout le temps. Il y a jamais aucun plafond, quoi. Enfin, ça fait tout changer, donc il faut s'habituer à ça dès le début. Tu as raison, c'est vrai que c'est la curiosité, c'est super important d'avoir ça.
Une fois qu'il y a 3 ans, je crois qu'il y a 3 ans, il n'y avait même pas de story sur Instagram.
Ouais, non, mais c'est exact, exact.
Quand tu regardes avec un peu de recul, c'est incroyable. Alors que maintenant, enfin, tu peux pas penser l'animation Instagram sans penser Stories.
Non, c'est impossible. Comme tu et maintenant sans
Ouais.
Reels. Ouais, non, c'est
Et
vrai.
c'est
C'est
encore.
encore une couche supplémentaire, quoi. Et donc Instagram, ça devient une usine à gaz de dingue. Et donc ça fait
Ouais.
que t'es obligé de te dire, ok, bah vous avez pas la capacité dans l'équipe de gérer Instagram si je suis pas là ou si vous prenez pas de CM, donc vous allez pas sur Instagram. T'es obligé d'en arriver à des choix radicaux comme ça. En fait.
Bah, c'est vrai que quand je communique pour moi sur LinkedIn et que je compare, du coup, quand je fais x2, enfin des 200-300% de reach organique et que je vais sur Instagram, je vais poster un post pour mon client et que je touche 300 personnes, c'est frustrant comme raison.
Ouais, non, c'est vrai, hein.
Ça
Instagram,
devient compliqué. Hein.
Instagram, pour moi, c'est. Avant, j'aimais beaucoup ça. Maintenant, je trouve ça trop dur. Il faudrait limite
ouais,
plusieurs personnes pour gérer un même compte Instagram. Et il le faut même. Il faut un graphiste, il faut un vidéaste. Enfin, c'est.
Il faut une personne qui échange avec la communauté.
Ouais,
aussi.
Oui, oui, bah oui. Ça, c'est hyper, c'est énorme. C'est pour ça que non, c'est vrai que t'as raison. Ça, c'est un aspect qui est hyper important. Et moi, il y a une compétence aussi qui m'a fait venir dans le métier. Je sais pas si toi c'est pareil ou pas. J'en sais rien. Mais c'est l'écriture. Aimer écrire et aimer, tu vois, et faire des punchlines. Tu l'as dit tout à l'heure, répondre à des trolls. Moi, j'adore faire. Enfin, c'est trop cool de faire ça, tu vois. De répondre à des gens qui sont pas d'accord ou d'y mettre les formes, tu vois, ou pas. C'est un truc que j'aime bien faire. Et je sais pas si toi, c'est pareil ou.
C'est pas forcément envie d'écrire. Par contre, moi, j'ai quand même été très très tôt dans le monde d'Internet. Et je sais que bah, quand j'avais 11, 12 ans, j'étais déjà sur des forums, c'est les fameux
ouais.
forums à l'époque, où du coup, t'échangeais, tu devais animer quand même le forum. Donc en fait, je crois que j'ai toujours eu cette fibre, au final, qui était très proche des réseaux sociaux. J'ai toujours, j'ai quand même très tôt été sur Facebook, sur Insta, sur les autres réseaux, sur Twitter, etc. Donc je pense que en fait, naturellement, c'était une fibre un peu naturelle pour moi, quoi.
D'accord. Ouais, c'est super. Et du coup, aujourd'hui, tu vois, quand, par exemple, tes clients, ils te demandent, enfin, quand tu travailles avec eux, par exemple, quel outil tu utilises, en fait? Toi, ça, c'est un truc, j'ai l'impression que community manager et outil, c'est, tout le monde conseille des outils au community manager. Mais je sais pas si enfin, moi, je fonctionne avec un ou deux outils. Je sais pas si toi,
moi, j'ai un ou deux outils aussi. Moi, je travaille avec IconoSquare, notamment, pour tout ce qui est côté reporting, parce que j'en avais marre de passer 3 heures sur un reporting mensuel. Donc, l'objectif, c'était de gagner du temps. Et parfois, je bosse avec Travicon, qui a un outil pour rechercher les influenceurs.
Travicon, ça s'appelle
Favicon.
Favicon, Travicon, n'importe quoi.
Favicon. C'est pas mal, mais c'est pas optimal non plus.
D'accord.
Il y a quand même plein de choses qui me frustrent dans cet outil. Malheureusement, pour rechercher les influenceurs, t'es quasiment obligé, je trouve, de passer par les outils.
Oui.
Et les outils sont très chers. Je sais qu'en agence, on passait par iPoditor. iPoditor, c'est 700 balles par mois.
Exactement.
Et t'es limité, c'est même pas illimité pour les rapports et tout. Donc, iPoditor, j'ai dit bah non, je suis plus en agence. Et du coup, j'ai trouvé Favicon qui est un iPoditor du pauvre, mais c'est quand même pareil, 150 balles par mois, quoi. Donc,
c'est vrai qu'il faut le vendre au client. Aussi. Ouais, ouais.
Ouais. Faut le prévoir dans tes budgets, mais c'est vrai que sinon, moi je suis un vieux de la vieille, mais je suis pas si vieux que ça au final. Mais j'ai quand même, toi, au final 4 ans peut-être d'expérience là-dedans, et j'ai été habitué à poster et planifier via Facebook. Donc maintenant ça se passe via Creator Studio, et c'est vrai que même si pourtant sur IconoSquare, je pourrais planifier directement sur l'outil, mais je reste habitué à mon vieux Facebook et Creator Studio, et je passe tout par là.
Ouais, mais moi je suis passé par pas mal d'outils, et c'est vrai que finalement j'en reviens à Creator Studio parce que en fait, de toute façon, quand tu utilises un outil, il n'y a jamais aucune facilité en vrai, enfin, sauf pour le reporting, comme tu le dis, où ça c'est cool, mais sinon, ouais, c'est. Ok.
C'était mon outil indispensable. L'outil de reporting, moi, c'est le premier truc que j'ai voulu.
Bah ouais, c'est clair. Et tes calendriers, tu les fais comment, en fait, ta publication, t'écris tout à l'avance
par, ou... En fait, je passe par Google Slides, généralement. Je vais essayer de t'expliquer, mais en fait, généralement, je propose des concepts, voire même quasiment directement des wordings, que je fais valider au client, et quand c'est validé, je passe au visuel. Généralement, ça se passe comme ça. Donc, en fait, d'abord, je fais valider les concepts, après, je fais les visuels. L'objectif, c'est pas, justement, de faire 15 000 allers-retours. Parce que si tu as fait des concepts wording et visuels et qu'en fait le concept il va pas, faut que tu refasses tout. Donc en fait j'ai avancé comme ça et en fait l'intérêt de Google Slides, c'est que c'est collaboratif et que c'est en direct, donc le client il peut travailler en même temps sur ton document. Donc voilà, ça c'est clairement un outil que j'ai repris toi de l'agence. On travaillait comme ça et je continue à travailler comme ça et ça me va bien et ça va bien en client aussi, donc c'est idéal quoi.
Ah ouais, c'est top, c'est-à-dire
Mais il y a
que,
plein
mais
de...
c'est vrai que c'est hyper complexe cette question de calendrier et tout, et c'est pas mal de bosser en plusieurs parties comme ça, c'est-à-dire qu'en fait tu prends un mock-up du réseau social, tu le colles sur Google Slide, ou non, même pas, tu écris directement
Non, je mets visuel.
tu mets le visuel et
Ouais, en
t'écris...
fait, à la base, j'explique le concept du poste, enfin, qu'est-ce que ça va être, en fait. Et parfois, en fonction, si le client en a besoin pour justement s'imprégner du concept, je fais le wording aussi en même temps. Et quand ça s'est validé, je vais faire un visuel, mais je vais pas. Enfin, ça m'arrive parfois, mais quand c'est nécessaire, mais sinon je vais juste mettre le visuel à côté, quoi, sans forcément le mettre dans un mock-up.
D'accord, ok. Ouais, tu fais ça en mode ça. Ok, c'est super cool comme technique. Je sais qu'il y a Diane Soutière qui est passée dans le podcast qui travaille comme ça avec les vignerons. En fait, c'est un public qui est pas forcément habitué aux outils du numérique et tout. Et donc, elle écrit ses posts, elle monte ses posts sur Google Doc. Comme Google Slide, mais la version plus écrite, je pense.
Moi, Google Drive, moi, j'adore. Bon,
Ouais, mais...
parce qu'on parlait d'outils très social media, mais en termes d'outils professionnels, sur Google Drive, faut pas se prendre la tête, c'est trop bien, quoi. Enfin,
Ouais.
tout est collaboratif, les clients peuvent faire des retours directement sur le document.
Ouais,
C'est pas besoin de
exactement. Et
payer un outil.
puis... Ouais, c'est ça, un outil. Ouais, c'est ça, un outil avec des plannings et tout. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de CM qui sont passés dans le podcast, qui travaillent sur des comptes assez gros et tout, et qui me disaient qu'ils publiaient directement, même sur l'appli en natif ou quoi, qu'il n'y allait plus sur les outils tiers. Parce que ça prend. En fait, maintenant, il y a tellement de formats complètement différents que passer sur un outil tiers, j'ai l'impression que ça te prend plus de temps encore, tu vois. Des fois, en plus, les API, des fois, tu peux pas faire ce que tu veux et. T'es contraint en
Ouais,
fait.
c'est clair. Moi, je crois que parfois, enfin, ça m'est déjà dû arriver que je voulais faire un format, mais qu'en fait, c'était pas possible via l'outil. Et donc, du coup, tu dois au final repasser par Creator Studio, comme d'hab. Et donc, Creator Studio, c'est très bien.
Ouais, c'est clair. Non mais c'est clair, c'est ça. C'est exactement ça. Non mais t'as parfaitement raison. Il faut pas. Comme tout devient plus compliqué et qu'il y a de nouveaux réseaux qui apparaissent et tout devient plus éclaté de plus en plus, vaut mieux pas se prendre la tête, aller au plus simple en fait, directement à la source et voilà quoi, sans perdre de temps. Ok, Google Slides, super, super tips, super astuces. Moi je trouve, j'aime bien. Ok. Moi je disais Notion maintenant. Notion, tu peux inviter des gens. Qui sont pas dans Notion, dans le calendrier, ils peuvent voir aussi, ils peuvent lire un peu la tête du poste, tout ça, ça demande un petit peu plus de formation, mais c'est pas mal aussi, je trouve. C'est simple.
J'ai l'impression que Notion, c'est l'outil ultime, mais j'ai l'impression qu'il te faut un mois pour vraiment s'imprégner de l'outil, des fonctionnalités. Donc je me suis jamais mis dedans,
Moi,
mais je
je me mets à
conçois que le
l'arrache, hein.
potentiel.
Ouais. Ah non, ah, mais je me suis mis à l'arrache dedans en fait. Et sans... En fait, c'est un outil où tu peux faire un peu tout ce que tu veux. C'est pour ça que c'est un peu déstabilisant. Tu l'organises un peu comme tu veux. Moi, il y a juste une fonctionnalité qui m'intéresse. C'est le. En fait, j'utilise Notion comme avant. J'utilisais Ensemble Trello avec Google, purée, Google Sheet pour faire un calendrier. En fait, j'arrivais pas à bien faire mon calendrier. Et en fait, j'utilise un peu Notion comme ça, et ça me sert à écrire en fait en dehors du calendrier et à le voir dans le calendrier et voir l'ensemble ce que ça donne en fait. Enfin, bon, c'est enfin, pour moi, dans mon organisation, hein?
Tu m'avais montré la dernière fois, ça a l'air vraiment canon, hein. Mais en fait, je pense que faut t'habituer à une manière de travailler, et quand la manière que tu as de travailler fonctionne bien, pas besoin de forcément de changer, parce que l'objectif, tant que ça marche.
En vrai, il faut tâtonner. Moi, ça fait des années que je tâtonne. Et là, enfin, je pense que j'ai trouvé. Ça fait des années que c'est problématique pour moi, hein, de la manière de travailler et montrer à des clients facilement sans se prendre la tête. Et là, Notion, ça cumule un peu tout et je trouve ça cool. C'est pour ça que je me dis, bon. Voilà. Après, je veux pas trop en faire la pub. Et après, ça sert à rien d'être un pro de Notion et de tout savoir à fond dessus. Faut savoir à l'essentiel, le calendrier, et voilà. C'est tout, quoi. Enfin, pour commencer, en tout cas. Ouais, ça c'est clair. Ok, je suis allé voir Favicon, du coup, mais c'est vrai que moi je fais pas trop d'influence. Ok. Et du coup, toi. Oh, mais attends, le temps, il est. Waouh! Ok, 1h30 déjà. En fait, je me dis, mais purée, mais il est 2h-10. ouais, c'est énorme. Bah écoute, non, je voulais juste te demander aussi que comment tu faisais pour tarifer tes prestations. Est-ce que tu faisais ça à l'heure ou à la journée? Enfin, qu'est-ce que tu conseilles de faire?
Alors, conseiller, je sais pas. Mais moi, je sais que je suis encore très classique au TGM. Facture à la journée que je vais passer, mais je sais aussi que ça a ses limites. Le problème, moi, c'est que j'ai pas envie de passer par des formules toutes faites parce que j'estime que tous les clients, tu brides déjà en fait. Je trouve que quand tu proposes une formule, tu brides déjà ce que tu peux proposer aux clients, je trouve. J'aime bien quand même être très dans la personnalisation dans ce que je propose à un client. Donc moi, les formules, ça me va pas. Le TGM, c'est bien, mais c'est vrai que du coup tu vends, t'es vite limité en fait. Du coup, vu que tu vends de l'heure de tes journées, t'es vite limité dans ce que tu peux vendre. Moi, pour moi, ça me va très bien, mais je sais que c'est pas forcément le meilleur chose à faire. Je pense que je passerai pas par des offres, mais je suis encore ouvert à d'autres manières de tarifer. Donc je vais pas forcément conseiller quoi que ce soit. Je fais au TJM. Je sais qu'il y en a plein qui font des offres. Moi, je suis juste moins à l'aise avec ça, mais je conçois que ça peut être efficace aussi, surtout d'une manière commerciale, quoi.
Ouais. Ouais, c'est TGM. En même temps, c'est aussi les entreprises. Elles voient en fait, elles perçoivent plus facilement peut-être au TGM combien tu coûtes en fait. Mais moi, je suis sorti de ce système là il y a un an du TGM, du coût à l'heure, tout ça, parce que en fait, je voulais pas être bloqué, je me sentais comme un salarié en fait, si je faisais comme ça, quoi. C'est bizarre,
c'est
hein,
comment, mais
et ben en fait j'ai remarqué que moi je, enfin, c'est comme tous les freelances, comme les chefs d'entreprise en fait, en gros on pense tous à nos clients, et même des fois ça nous arrive d'y penser dans des moments où on travaille pas en fait. Tu penses à une strat, tu penses à un truc quand tu te balades, tu vois, ça devient furtivement, tu vois un truc, ça te fait penser à ça, tu vois. Ou même la nuit, des fois, quand t'as une insomnie, tu vois. Tu vois, ça arrive. Ça arrive, t'as une insomnie à cause d'un truc qui te stresse un peu, tu vois. Je sais pas si toi, ça t'arrive.
Là, c'est juste pour tes clients qui t'écoutent, là. C'est juste, t'es en train de leur dire que tu bosses tout le temps pour eux.
Non, non, c'est sûr. Mes clients, ils écoutent pas de podcast parce que c'est trop long, déjà. Puis, les trucs, ça les intéresse pas, tu vois.
Ça fait 1h30, ils ont décroché, là.
Ouais, 1h33, t'inquiète, y a personne qui va entendre ça. Mais c'est vrai, quand t'es friand, ben, des fois, t'es un peu, si t'es pas du tout stressé, c'est super, tu vois. Mais des fois, moi, des fois, je me réveille la nuit et ça mouline, tu vois. Ça m'arrive, des fois, de temps en temps. Pas tout le temps, heureusement.
En vrai, je te taquine, mais je suis en phase. forcément, on a tous passé des nuits où on dormait pas et on réfléchissait peut-être à la réunion de demain, à un truc qui se passe pas forcément bien, ou alors à une manière de rechallenger une stratégie.
Ouais.
On l'a tous fait, je pense.
Ouais, carrément. Et totalement. Et je me dis ça, ce temps, comment je vais le facturer, tu vois? Quand j'ai facturé ma nuit. Alors cette nuit, j'ai pensé à vous, entre 4h et 4h38.
Du coup, c'est 80 euros.
80 balles, bim! Non, mais tu vois, en fait, moi, comment je facture, en fait? Je propose un prix qui est élevé, c'est vrai. Qui est élevé. Par exemple, ma stratégie du début, là. Je propose un prix à plusieurs milliers d'euros. Et
m'étonnes.
quand ça signe, hein?
Tu m'étonnes. Vu comment c'était complet, j'espère que tu l'as branché.
Et quand voilà, et quand je le fais, quand je fais mes séances et quand je travaille dessus, j'essaye quand même de voir au temps combien ça fait. Et souvent, je me rends compte que je dépasse encore le temps, tu vois. Et je me dis, purée, où il faut que j'optimise la stratégie? Ou il faut que je vende encore plus cher. Mais là, le problème, à un moment, tu peux pas vendre à un client pour l'année. Enfin, c'est pas possible, quoi. Ou il faut trouver, tu trouves un gros client. Et pour ça, il faut que tu aies un bon personal branding. Il faut que tu aies des méthodos hyper puissantes, une preuve sociale très 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 affirmée, tu vois. Donc, je peux pas mettre des prix de dingo non plus, quoi. En vrai, enfin, des prix de dingo.
Ouais, bah moi,
Ouais.
je t'avoue que globalement, moi, j'ai des clients sur long terme, toi. Moi, j'ai des clients où normalement, ça se passe bien, ça peut durer un an, voire deux, voire trois. Et je trouve que c'est vraiment ce qu'il faut aller chercher quand, justement, quand tu es seul freelance, parce que derrière, l'effort que tu vas perdre, justement, bah, à reprospecter, à recommuniquer, à retrouver des clients, enfin, c'est infini enfin, c'est un effort. Enfin, c'est un effort qui
Oui.
est trop dur.
Oui.
Donc moi, j'essaie toujours de voir le long terme beaucoup.
Oui,
Parce que là, pour moi, ça marche bien.
mais t'as raison. Moi, j'ai des clients, j'ai plusieurs clients, plus d'un an, je bosse avec eux. Mais en fait, au bout d'un moment, j'ai remarqué, au bout d'un an, je commence, enfin, un peu plus d'un, enfin, ça dépend, je commence à me lasser et il commence à y avoir
Ah
des
oui.
habitudes qui s'installent, tu vois. Et je trouve que c'est très très mauvais quand t'es freelance d'avoir des habitudes qui s'installent ou la peur de plus être en sécurité ou tu vois parce qu'il faut constamment être dans et moi je trouve que c'est bien mais je le fais de moins en moins parce que je trouve que dernièrement je me suis un peu ramolli tu vois c'est bizarre de dire ça mais du coup là j'essaie de refaire des trucs qui durent entre 3 et 6 mois quoi.
Bah, moi, je sais que là, normalement, je devrais pas forcément changer de client parce que, en termes, bah, justement, financiers, ça se passe très bien. Mais pourtant, au final, je me suis étonné hier à répondre à deux personnes sur LinkedIn parce que, même si j'en ai pas besoin et que limite je devrais pas, parce que sinon je vais vite dépasser des seuils de freelance. Mais t'en as besoin en effet parce que c'est vrai que c'est trop bien les clients long terme et c'est ce qu'il faut, mais comme tu dis, tu peux vite tomber dans le confort et avoir un nouveau client, ça te permet de te re-challenger aussi parfois. Donc j'avoue que faut trouver le mieux c'est les deux quoi, c'est avoir un ou deux clients long terme et avoir derrière des missions court terme où tu peux te re-challenger, où tu peux redynamiser un peu ton cerveau quoi.
Ouais, totalement. Bah écoute, on va terminer sur ça. Là, c'était hyper complet cet épisode, je trouvais. Franchement, merci
Cool.
Henri, c'était super cool.
Merci à toi pour l'invitation.
Et puis, ah oui, t'en as pas parlé du tout, mais t'as un projet aussi en parallèle.
Oui, c'est vrai. Bah, c'est vrai que alors, du coup, je pense que ça devrait être officiel et sortir quand le podcast sortira. Mais je vais lancer un groupe Facebook pour les social media managers et community managers de veille collaborative. Parce qu'en fait, moi, je sais pas si ça t'arrive, Julien, et ça arrive aux auditeurs, mais ça m'est plusieurs fois arrivé, la problématique où tu dois faire un calendrier sur les médias, un planning éditorial pour un client. Et en fait, il y a un moment, parce que bah, forcément, quand tu as plusieurs clients, bah, tu as une bouillie de cerveau et tu n'arrives plus à avoir d'idées. Et je trouve que dans ces cas-là, c'est bien d'avoir de l'inspiration de ce qui se passe à côté. Et du coup, j'aimerais créer un groupe Facebook vraiment de CM où on va tous partager notre veille, ce qu'on trouve bien, que ce soit sur TikTok, LinkedIn, Facebook, Instagram, même Pinterest, peu importe le format, que ce soit de la stories, du Reels, des posts. Et l'objectif, c'est que que ce soit pour faire une présentation, pour s'inspirer, pour présenter des exemples à des clients de ce qu'on pourrait faire, bah, en fait, tu as juste à aller sur le compte Facebook et retrouver la publication qui t'intéresse. Du coup, je pense que d'ici octobre, ce sera sorti. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, je vous enverrai le lien.
Ok, top, merci beaucoup. Bah, franchement, moi, ça m'intéresse et je suis déjà dedans, donc c'est cool. Merci à tous, l'épisode est déjà terminé, donc j'étais ravi vraiment de pouvoir échanger avec Henri Prouveau, qui est community manager, digital, nomade et freelance en plus, donc à distance. On a pu voir dans l'épisode comment il travaillait avec tous ses outils, et notamment comment il cherche toujours d'ailleurs une nouvelle manière de travailler pour créer du contenu à distance. C'est pas hyper simple, ça fait partie des réflexions en community management quand on est freelance, et qu'on travaille à distance notamment. Donc j'étais hyper content de pouvoir partager ça avec vous aujourd'hui dans cet épisode. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt, ou une bonne nuit d'ailleurs, et à bientôt pour un nouvel épisode de CM au sommet. Salut !